Chapitre 9. Fernando Guevara était parent de Don Sylvestre. Connaissant l'intimité de ce dernier avec la marquise de Cortegane, il fut le voir le lendemain pour le prier de le présenter chez cette dame. Don Sylvestre, soit à cause de sa parenté, soit par pure complaisance, n'y trouva pas d'inconvénient. La présentation eut lieu le jour même et Fernando, après les premiers compliments, fit la demande de la main de Clémencia. La marquise, qui aurait fort mal reçu le jeune étourdi si cette demande eût concerné l'une de ses filles, l'accueillit au contraire avec une vive satisfaction pour sa nièce. Les attentions que le marquis de Valdemar avait prodiguées la veille à Clémencia n'avaient pas échappé à madame de Cortegane, et comme elle n'avait pas perdu tout espoir de vaincre l'obstination de Constance, elle voyait avec une certaine crainte l'impression que sa nièce avait produite sur Valdemar. D'ailleurs, Fernando Guevara, parent de son ami Don Sylvestre, lui semblait un parti fort convenable pour sa nièce. Aussi accueillit-elle avec plaisir la demande qui lui était adressée, sous la condition que le novio obtiendrait le consentement de ses parents. « Ils se garderont bien de me le refuser, » répondit Fernando, « car, depuis la mort de mes frères, leur plus vif désir est de me voir retirer du service et marier. » Je veux aujourd'hui leur donner satisfaction sur le dernier point. Quant au premier, je ne suis pas disposé encore à aller m'enterrer dans leur trou de Villa Maria pour me coucher comme les poules et me lever comme les coqs. Regardez donc le consentement comme donné. Et sous 8 jours, il faut que je sois marié, car le régiment a reçu l'ordre de partir pour Cadix. Quand Guevara fut parti, la marquise fit venir Clémencia et lui dit simplement qu'il se présentait pour elle un brillant parti, qu'un jeune homme, fort bien de figure, fils unique et héritier d'un riche majorat, avait demandé sa main et qu'elle se préparât à l'épouser. « Mais qui est-ce? Comment se nomme-t-il ? » demanda Clémencia stupéfaite. Il s'appelle Fernando Guevara, il est de Villa Maria, capitaine dans le régiment d'artillerie, en garnison à Séville. C'est un fort aimable garçon, et tu seras très heureuse avec lui. La marquise sortit sans attendre la réponse de Clémencia, et celle-ci eût été bien embarrassée d'en trouver une. La docile enfant, tout émue de cette brusque déclaration, s'étonnait seulement que sa tante lui fît épouser un homme qu'elle ne connaissait pas. Le consentement des parents de Fernando ne tarda pas à arriver. Les préparatifs du mariage se firent en toute hâte et 8 jours après, Clémencia, vêtue de blanc, la tête ceinte d'une couronne de roses blanches, marchait à l'autel. Là, devant un prêtre, elle prononça machinalement le « oui » qui liait pour toujours sa destinée à celle de Fernando Guevara. Le jour même, Guevara, ayant reçu le prix de la gageure, partit avec sa femme pour Cadix, où son régiment devait s'embarquer pour se rendre sur le théâtre de la guerre. Ni les conseils de ses parents, ni les observations de la marquise n'avaient pu le persuader de laisser partir le régiment sans lui. Villa Maria apparaissait à ses yeux comme une effrayante Sibérie, et d'ailleurs il était brave et le point d'honneur s'opposait à ce qu'il donnât sa démission au moment d'entrer en campagne. Nous renonçons à dépeindre le désespoir de la pauvre Clémencia en se séparant de sa tante et de ses cousines et en se voyant seule avec un étranger au milieu d'un monde tout à fait inconnu pour elle. Il est d'usage, en certains pays, surtout dans ceux où l'on vante le plus la candeur et la retenue des jeunes filles, et notamment en Angleterre, qu'aussitôt après le mariage, mari et femme montent en tête à tête dans une chaise de poste et s'en aillent courir le monde. On brise ainsi brusquement les doux liens de la famille, on arrache une jeune fille aux regards et aux conseils de sa mère, alors qu'ils lui sont le plus nécessaires, au mépris de toutes les convenances. Cet usage inconcevable est fort heureusement, à bien peu d'exceptions près, inconnu dans notre chère Espagne, où les jeunes personnes ne sont pas, dit-on, cependant, élevées avec la sévérité et la retenue désirables. L'affliction de Clémencia était d'autant plus vive que ses pleurs, au lieu d'émouvoir son mari et de lui inspirer quelques bonnes paroles de consolation, n'excitaient au contraire que sa colère et son dépit, car il les attribuait, et peut-être n'avait-il pas tout à fait tort, au sentiment de répulsion qu'il lui inspirait. Si Guevara n'avait rien fait pour capter la tendresse de sa femme, celle-ci, de son côté, sans le savoir, sans le comprendre, faisait tout ce qu'il fallait pour éloigner d'elle un mari, pour qui les sentiments délicats n'étaient que des minauderies, et qui avait, pour les larmes, autant d'éloignement que d'autres en ont pour le sang. Ainsi, le hasard n'avait jamais réuni deux êtres plus antipathiques l'un à l'autre, plus opposés de nature que ne l'étaient ces deux époux. Trop jeunes tous deux pour avoir cette prudence et cette connaissance du cœur humain que donne l'habitude du monde, ils ne savaient ni se faire de mutuelles concessions, ni sacrifier quelque chose au présent pour ménager l'avenir. Clémentia, élevée au couvent, ne soupçonnait même pas l'existence de ce monde, aux passions grossières, au milieu duquel elle venait d'être si brusquement lancée. De son côté, Fernand, qui n'avait jamais fréquenté que les tripots et les casernes, ignorait totalement les délicats mystères du cœur d'une jeune fille bien élevée. Fernand était jeune, riche, beau garçon, et jamais, dans le monde de femmes qu'il avait fréquenté, il n'avait rencontré de cruel. Il n'avait de l'amour que l'idée la plus erronée. À voir que sa femme ne traitait pas ce sentiment comme les dévergondés auxquels il avait eu affaire, le jeune homme se persuada que Clémentia avait un sentiment secret et que l'objet de ce sentiment ne pouvait être que le marquis de Valdemar. Cette idée lui semblait d'autant plus naturelle que le marquis n'avait pu dissimuler l'étonnement désapprobateur que lui avait causé ce mariage, imposé si subitement à la jeune fille. Quoi qu'il en soit, Fernando, contrarié, exaspéré, irrité contre Clémence, ne tarda pas à reprendre sa vie d'autrefois et à se rejeter dans tous les vices. En présence de ce mélange d'exigences et de froideur, de jalousie et d'éloignement, Clémence demeura convaincue que Fernand n'éprouvait pour elle ni amour, ni tendresse, ni même le respect que mérite une femme légitime. À part les vrais, Fernand n'aimait pas réellement Clémence. Entre deux êtres de natures aussi dissemblables, il ne pouvait exister d'affinité d'aucune espèce. Mais la beauté de Clémence devint pour lui la cause d'une jalousie sans amour, d'autant plus cruelle qu'elle était sans compensation. De cette jalousie résulta pour la jeune femme un martyre incessant. À la défiance la plus offensante, son mari joignait les plus despotiques exigences qui n'étaient rachetées par aucune preuve de tendresse. Quand il sortait, il la mettait sous clé et il lui défendait de recevoir personne, de sortir et même d'aller à l'église. Poussé par son aveugle jalousie, il la privait des distractions, même les plus innocentes, et il s'en fut jusqu'à étouffer dans sa main un oiseau qu'elle aimait, l'unique compagnon de sa solitude. Au milieu de tant de souffrances, Clémentia ne se regardait pourtant pas comme une femme incomprise, une héroïne méconnue, la victime d'un monstre, grand mot qu'elle ignorait, car elle n'avait jamais ouvert un roman étranger. Elle se bornait à croire que Fernando était un mauvais mari, comme il y en a tant, et se contentait de prier Dieu de toucher son cœur et de le ramener à de meilleurs sentiments. Elle avait sans cesse présent à l'esprit cette maxime de l'apôtre. Rappelons-nous que la patience est l'héroïsme du chrétien, et il serait honteux de nous montrer faibles sous un chef couronné d'épines. Fernando, comme toutes les natures abruties par le vice, était incapable d'apprécier le mérite de Clémentia, de comprendre le mystère de cette ardeur que la femme chrétienne met à s'acquitter de ses devoirs les plus sévères et se croyait trompée par elle. Il voyait, dans son silence, la preuve que son abandon lui était indifférent et il se disait souvent « Si elle m'aimait, ne serait-elle pas jalouse ?» Quelquefois, cette idée le plongeait dans une tristesse profonde. Alors Clémentia s'approchait de lui, lui prodiguait ses trésors de consolation dont le cœur d'une femme est si riche, surtout lorsqu'elle le voit souffrir. Elle trouvait pour lui de ses douces paroles, inspirées par le cœur. Mais ses fleurs, semées sur le sable aride d'un désert, ne tardaient pas à se flétrir. Ce baume versé sur un cadavre ne pouvait pénétrer sa froideur. Si Fernande rompait le silence, ce n'était que pour lui adresser de ces paroles grossières qui blessaient l'oreille de Clémence et resserraient son cœur, comme la sensitive se replie sur elle-même à l'approche d'une main indiscrète. Un jour, Fernande voulut placer dans son salon une de ces gravures que, malheureusement, dans le monde, on s'est habitué à regarder sans rougir. C'était Vénus caressant Adonis. À la vue de ce tableau, qui choquait la pureté de son âme, elle éprouva d'abord un étonnement pénible, dont son mari ne fit que rire, et tout à coup, elle éclata en sanglots en se couvrant le visage. Fernande ne comprit pas tout ce qu'il y avait d'exquise délicatesse dans ses larmes, et les prenant pour un effet de ridicule préjugé, il éclata en imprécations grossières et finit par s'écrier en jurant qu'elle aurait bien mieux fait de rester au couvent que d'épouser un militaire. Malgré tout ce qu'une telle vie avait de triste et de pénible, Clémentia, grâce à la résignation et à la douceur de son caractère, la supportait sans se plaindre, mais la force physique finit par lui manquer. Sa pâleur et l'excessive maigreur de son visage dénotaient en elle les affreux ravages du chagrin. Bientôt, il lui devint impossible de marcher, et la jeune femme, si active naguère, passait ses journées étendue sur une chaise longue. 2 mois s'étaient écoulés, et les navires qui devaient porter le régiment à Valence étaient prêts à mettre la voile. Clémence n'était pas en état de suivre son mari, et Fernand se vit dans la nécessité d'écrire aux parents de sa femme pour les informer de son état de santé et des motifs qui l'obligeaient à la leur confier pendant son absence. Le jour où Fernand fit connaître à Clémence qu'il allait partir et que, pendant son absence, elle retournerait habiter chez sa tante, Clémence montra un grand chagrin qui toucha fort peu son mari car il n'y croyait pas. Et pourtant, en réalité, mystère du cœur humain, Clémence s'était attachée à Fernand, malgré ses mauvais procédés, par ce seul fait qu'il était son mari. Comme une autre sainte Monique, elle espérait fermement que tôt ou tard, Guevara reviendrait à de meilleurs sentiments et rentrerait dans la voie du devoir. Elle ignorait la naïve jeune fille, que les natures foncièrement mauvaises conservent jusque dans la vieillesse la perversité de leurs penchants. Mais le cœur d'une femme vertueuse est une mine inépuisable d'un dévouement et d'un amour que l'absence, le malheur, la pauvreté, les maladies ne sauraient jamais diminuer. Amour toujours saint, dévouement toujours sublime, qui relève la nature humaine, que le monde peut mépriser, mais que la religion exalte et bénit. Guevara profita du départ de la femme de son colonel pour envoyer Clémentia à Séville. Arrivée chez sa tante, dans un pitoyable état de santé, la pauvre jeune femme fut tellement émue en revoyant sa famille qu'elle tomba sans connaissance. La marquise, effrayée, convoqua la faculté qui déclara la malade dans un état fort grave. Cette déclaration surprit, mais n'affligea pas Clémentia. Elle pensa que la mort serait pour elle un bienfait, puisqu'elle ne pouvait faire le bonheur de son mari, et se promit, si Dieu lui laissait la vie, de rentrer au couvent. Comme le rossignol, enfermé dans une cage, soupire après ses bois, la pauvre enfant, renfermée dans le monde, soupirait après le repos du couvent. Clémence inspira longtemps des craintes pour sa vie. La jeunesse et le tempérament finirent par triompher de la maladie. Elle était en pleine convalescence lorsqu'arriva la nouvelle, aussi triste qu'imprévue, de la mort de Fernando, qui avait vaillamment succombé dans un brillant combat. Clémence versa de sincères larmes sur la tombe de son mari, sans laisser soupçonner à personne combien, pendant sa vie, il l'avait rendue malheureuse. Jamais elle n'en ouvrit la bouche, du vivant de Fernando, par un sentiment de devoir, après sa mort, par un sentiment de respect.